Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous faire un petit débrief à la fois, on va dire technique, et à la fois plus terre à terre de l'assistance donc d'Alexandre, alias Casquette Verte pour ceux qui n'auraient pas compris, sur l'UTMB 2023. Alors, déjà, au niveau, je vais commencer tout simplement par le niveau vraiment pratique, comment je m'organise, moi. Donc j'essaye de préparer au maximum en amont, sachant que je m'adapte évidemment entre guillemets aux exigences d'Alexandre. Donc depuis plusieurs courses, la principale difficulté, c'est qu'en fait je dois lui faire cuire du riz parce que donc l'année dernière sur l'édition 2022, on en avait mais qui était cuit en avance. Et le côté riz froid au bout de 15h, 16h, c'était franchement pas terrible. Donc ça a été ça l'objectif des répétitions qu'on a fait à l'Ultra 01 et à l'UT4M de voir si c'était gérable de faire du riz. On en est aussi arrivé à la conclusion que s'arrêter et prendre voilà, le temps de le manger, ça le ralentissait un peu. Donc, et ça surtout, ça l'obligeait à assimiler très rapidement une grosse quantité de nourriture, ce qui n'est pas forcément non plus intéressant. Donc, l'idée était qu'il puisse partir avec des petits sachets et donc manger au fur et à mesure. Donc ça, pour moi, c'était la première difficulté à mettre en place. Deuxième difficulté, c'était de transporter donc les boissons. Ça avait été très compliqué sur l'UT4M. Donc je m'étais équipée d'un sac glaciaire que je pense que vous êtes beaucoup avoir vu, qui est un gros sac Camelback, qui est un peu lourd, qui peut poser problème. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que justement Alexandre était coureur classé comme le veuille ou non élite quand même, ce qui fait qu'il y avait assez peu de monde et de la place au ravitaillement. C'est vrai que je ne suis pas sûre à voir que les bénévoles laissent rentrer quelqu'un avec ce gros sac sur le dos, un sac à la main, bon, en sachant que le sac est suffisamment grand quand même pour y mettre pas mal de choses. Donc voilà, ça c'était rapidement quelques éléments avant d'aller plus loin. Donc j'ai sur moi toujours les sachets que Alexandre me prépare, qui sont des sachets prédéterminés, c'est lui qui les fait en fonction de ce qu'il estime être ses besoins, un par ravitaillement. Il les a numérotés ou il écrit carrément le nom du ravitaillement dessus, donc pour moi, je n'ai même pas à réfléchir. Je le prends et systématiquement, je sors les choses du sachet pour qu'il puisse piocher et prendre ce qu'il veut. J'ai toujours avec moi la boîte du au cas où, qui est une boîte que pour l'instant je trimballe et dans laquelle, à ma connaissance, il n'a jamais pioché depuis que je fais ses assistances. Mais bon, voilà, c'est un des gros tupperware qu'on aperçoit assez vite sur les vidéos des tables quand je vous les filme. Et puis le fameux tupperware vert qui donc n'est pas du tout voulu pour la blague. Je l'ai depuis une éternité, je ne savais même pas que Casquette Verte existait, donc c'est juste qu'il y a quelques années, j'ai décidé de me séparer de tous mes tupperwares en plastique pour des questions de santé, pour passer à des contenants en verre, mais je n'allais pas jeter pour autant toutes ces boîtes. Certaines servent maintenant pour les ateliers de bricolage de mes hommes, mais voilà, il m'en restait quelques-unes, et celle-là est celle où il y a tout ce qu'il faut pour la santé, soigner des ampoules, surtout en priorité, soigner des bobos si jamais ils tombaient, ils s'ouvraient, pour tout vous dire, et ça j'évite peut-être même de le dire trop fort, j'ai de la colle dermique dedans pour pouvoir, si jamais il s'était ouvert ou quoi que ce soit, voilà, lui faire un petit point de colle et faire qu'il puisse repartir, et voilà, de quoi faire des pansements et tout. Il n'y a pas que pour des ampoules, hein, évidemment, il y a aussi ça, j'ai des crèmes anti-frottement, de la crème du baume du tigre, une crème spéciale justement conçue pour les épaules et tout, parce que bon, on me dit qu'un jour il pourrait peut-être souffrir avec le sac à dos. Enfin voilà, c'est une boîte de santé pour soigner les petits bobos, pour essayer de ne pas perdre de temps d'aller voir les docs pour le minimum que moi je sais traiter. Après évidemment, pour les choses plus graves, vous vous doutez bien que je l'enverrai chez les médecins qui sont très compétents, qui plus est sur l'UTMB. Donc voilà, ça c'est la base. Généralement dans mon sac noir qu'on aperçoit aussi, j'ai toujours un kit de vêtements, qui évidemment ne sert à rien et que je trimballe, puisqu'il n'enfile jamais un truc propre, mais ça, bah, je pense que vous le connaissez tous. Il l'avait fait l'année dernière à l'UTMB, mais cette année, il n'y a pas eu moyen de lui faire enfiler ni le t-shirt à manches longues, ni un t-shirt à manches courtes propre, donc, mais je continuerai à les trimballer. Il y a évidemment tout ce qui est matériel obligatoire en doublon, au cas où. Donc en plus, le plus drôle, c'est que généralement, il a le sien et j'ai le mien. Donc en fait, on est en triplon, pour dire les choses. Mais, et puis une paire de chaussures, pareil, au cas où il veuille changer. Ce qui fait quand même pas mal de choses. Ce qui explique aussi pourquoi, à ce niveau d'assistance, les navettes, c'est pas forcément simple. Sachant que j'essaye d'optimiser et que, bah, écoutez, dans l'absolu, j'aurais pu faire toute cette course avec les navettes, mais il se serait posé le problème du remplissage à mi-parcours, donc ça veut dire repasser par Chamonix, concrètement, ou là où j'aurais dormi. Bon, enfin, c'est gérable, très, très sincèrement, sur quelqu'un qui fait la course, comme ça m'est arrivé de faire des assistances de personnes qui faisaient la course en plus de 40 heures, c'est tout à fait gérable. Beaucoup m'ont justement posé une question par rapport à la gestion de la voiture. Donc, concrètement, sur l'UTMB, ce n'est un secret pour personne, tout est fait pour qu'on ne puisse pas les prendre. Il se trouve que, en ayant étudié les heures de fermeture des routes, j'ai très vite réalisé qu'en réalité, ça correspondait quasiment au passage des 50 premiers à peu près. Ça dépend des années puisque c'est variable. Bon, alors on va dire les 40 premiers. Donc en gros, pour dire les choses très clairement, avoir ma voiture avec moi, c'est jouable, à la condition qu'Alex reste dans le top 40 jusqu'à Courmayeur. C'est une obligation et cela me permet, moi, de partir de Courmayeur suffisamment tôt pour arriver à Champélac avant la fermeture des routes. Après le moment où je suis à Champélac, de toute façon, je déroule. Là, il n'y a plus de problème de fermeture puisque la route en elle-même n'est pas fermée. Ce qu'il s'est passé cette année, par contre, et je vais vous le dire et je vais être très honnête avec vous, même si, voilà, il y a eu un gros problème. En fait, les routes ne sont pas fermées, mais le stationnement est empêché à Valorcine maintenant, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Avant, on pouvait arriver. Avant, on pouvait se garer. Donc, dans le cas d'Alexandre, puisque donc, comme je vous disais, il était dans, à l'époque, enfin, à l'époque, l'année dernière, il était dans le top 20 à Valorcine, où il était 20e, je ne sais plus exactement. Je crois qu'il est rentré 20e à Valorcine. Donc, de toute façon, il n'y avait pas grand monde d'arrivée. Donc, concrètement, le parking qui était juste à côté du ravitaillement, j'ai trouvé une place sans aucun problème, puisque à ce niveau-là de course, les assistances arrivent finalement assez peu de temps avant et repartent immédiatement dès que le coureur bien sûr, est passé. Donc ça tourne énormément. Là, aujourd'hui, ils ont décidé de tout fermer, ce qui complique pas mal la donne. Donc, je vais être très honnête, comme ça c'est dit. Je me suis servi de mon passe-presse puisque je l'avais. Je ne m'en suis pas servi de la course avant, mais sur celui-là, comme on avait un peu d'inquiétude, je ne me rendais pas compte, on pouvait les se garer. Après être parti, en réalité, on aurait pu aller plus loin, j'aurais pu ne pas l'utiliser. Mais sur le moment, dans la panique un peu de la situation, j'ai géré comme j'ai pu. Et voilà. Mais bon, on aurait pu le gérer différemment. Avec le recul, après être parti du ravitaillement, on s'est rendu compte qu'en fait, ça aurait pu être gérable différemment, mais bon, voilà, je préfère être très honnête avec vous. Ce qui sous-entend donc que c'est réellement compliqué aujourd'hui de faire une assistance en voiture. Tout est fait pour qu'on ne le fasse pas, ce que je comprends. Mais à un moment, bon, c'est pas simple pour les élites, puisqu'on a quand même, nous, le stress de savoir qu'ils peuvent aller assez vite entre deux points, ce qui est le cas entre Trient et Valorcine. Ils ne traînent pas non plus beaucoup, donc ce ne serait pas simple d'attendre une navette, de la prendre et tout. Voilà. Ça, c'est rapidement comment je me suis organisée. Sur chaque ravitaillement, je pense que vous l'avez vu sur les petites vidéos, donc nous, on a le droit de rentrer 20 minutes avant l'heure annoncée sur Live Trail d'arrivée. C'est parce qu'il faut bien qu'il y ait une heure. c'est pas simple parce que ils peuvent arriver plus vite ou à l'inverse plus lentement, ce qui fait que vous pouvez aussi vous retrouver à occuper une table, à être dans un stress assez dingue parce qu'il est annoncé, je ne sais pas, à 12h30 et à 12h45, il n'est toujours pas là. Donc là, je vous laisse imaginer ce que vous imaginez. Mais c'est une réalité, donc on s'y tient. Ça m'a posé un problème l'année dernière à Champélac puisqu'il est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Et donc, j'étais pas prête. Cette année, il n'y a eu aucun problème. Il a clairement tenu ses heures d'arrivée ou il était légèrement en retard sur ce qui était annoncé. Donc, je n'ai jamais eu aucun problème, aucun stress de pouvoir installer mes affaires très rapidement. Donc, vous avez vu, je pense, les vidéos. J'essaie d'organiser un peu la table à peu près toujours de la même façon pour lui faciliter les choses et qu'il trouve tout de suite ce dont il a besoin. Vous avez donc vu les tasses. J'ai la grande tasse blanche qui est donc tout simplement de l'ice tea, ça vous le savez maintenant. Il m'a demandé donc de lui faire du bouillon salé qui a apparemment très bien fonctionné pour lui, de NAC, qu'il avait récupéré juste avant d'ailleurs sur le stand, parce que plusieurs personnes lui en avaient parlé. Donc ça, c'est la petite tasse bleue qu'on aperçoit sur les vidéos. C'est un thermos et je me servais de mon grand thermos blanc d'ailleurs, qui est le thermos de la tasse blanche, pour lui faire ce bouillon, pour qu'il l'ait à température pas trop chaude non plus, puisque le but c'est quand même qu'il le boive vite. Donc c'est là aussi tout un jeu d'avoir quelque chose de tiède, un peu chaud, mais pas trop, pour pouvoir le boire très rapidement. Et à Champé, il m'avait demandé sur sa liste un café. Donc là, très gentiment, en tous les cas, j'ai pris de l'eau chaude sur le ravitaillement. Et puis voilà, je lui ai préparé ce café, c'est le seul endroit où il en a bu hein, d'ailleurs. Et le reste du temps, il y a toujours une bouteille de coca ouverte. Je ne suis même pas sûre qu'il l'ait bu d'ailleurs dans mes souvenirs. Ah si, j'en ai servi un verre, je vous dis n'importe quoi. Je lui ai servi un verre de coca justement à Valorcine. Donc il y a du coca, il y a de la ceinture, ou, voilà, et une bouteille d'eau plate. C'était une demande également de sa part suite à l'UT4M. Donc voilà, et c'est toujours organisé à peu près de la même façon sur la table pour pouvoir aller le plus vite possible avec les choses qu'il doit emmener et tout. Et j'essaye de vérifier qu'il parte bien avec de la nourriture, même si c'est franchement pas facile. D'ailleurs, il m'a envoyé bouler à Valorcine pour dire les choses. Mais voilà, donc on en revient un peu maintenant au déroulé de cette assistance. Comme il l'a expliqué à ceux qui ont écouté le débrief qu'il a fait sur Switch, Twitch, machin, lundi soir, il est arrivé, en réalité, j'avais une chambre d'hôtel particulière, puisque non, ce n'est toujours pas mon fils, et non, nous ne vivons pas ensemble. Je lui avais proposé en fait ma chambre, parce que justement, ils avaient loué un appartement, ils étaient plusieurs dedans. Le côté camping et tout, c'était pas forcément très simple pour qu'il puisse se reposer. Donc moi, je lui ai laissé ma chambre d'hôtel qui se trouvait être pas très loin de la ligne d'arrivée, ou de départ plutôt, excusez-moi, puisque là, dans le cas présent, on parle de départ. Vraiment pas loin, parce que ça m'a même inquiété quand j'ai pris les clés, je ne vous cache pas, lundi, parce que je me suis dit, oula, c'est vraiment très très près de la ligne d'arrivée et je vais me taper... Ludo dans le micro pendant toute la semaine, est-ce que je vais réussir à dormir? Et finalement, l'insonorisation de l'hôtel était absolument dingue et je n'entendais rien, ce qui était assez fou. Donc voilà, on l'a laissé tranquille. Moi, j'avais préparé ma voiture le matin pour ne pas avoir à le déranger. Et apparemment, il a réussi à vraiment dormir 2 heures, ce qui est exceptionnel et c'est vraiment parfait pour ce qu'il allait faire derrière. On avait rendez-vous à partir de 16h pour terminer les préparatifs, pour faire quelques images, puisque ça, c'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué beaucoup. Nous avons embarqué un caméraman cette fois-ci, donc il va y avoir un petit film, il va y avoir des images de la course d'Alexandre. Donc le caméraman est venu, Antoine est venu nous rejoindre pour faire quelques images du départ. Il y est allé à partir de presque 17h. L'avantage par rapport à l'année dernière, Alors, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il a pu vraiment accéder au sas de départ sans presque croiser personne, très très peu de personnes, puisqu'il n'a pas eu à traverser la foule comme l'année dernière. Mon hôtel était dans l'autre sens l'année dernière, donc il avait vraiment dû traverser toute la place et tout avant d'arriver. Alors, je sais que c'est très frustrant parce que beaucoup de gens aiment le voir, aiment l'encourager et tout, mais ça aussi, un avantage, c'est que ça lui permet de se mettre dans sa bulle un peu plus tôt. Voilà, je l'ai laissé et je suis partie pour moi tout de suite, puisque on a le problème donc des contamines auxquelles il faut accéder très vite. Donc en fait, vous n'avez jamais d'image de moi du départ, enfin, vous n'en avez pas eu non plus l'année dernière, parce que je ne peux pas y rester en réalité. Donc moi, je suis partie bien avant pour pouvoir accéder aux contamines. Donc l'année dernière, pour celles et ceux qui avaient suivi, j'avais eu une autre organisation puisque j'avais eu la chance de pouvoir squatter. Je m'en suis pas cachée, il n'y a aucun mystère là-dessus. Le camping-car de l'épouse d'Arthur Bouillon qui m'avait très gentiment proposé l'asile. Comme elle avait un pass élite, puisque Arthur est lui élite, ce qui nous avait permis de nous s'arrêter à Saint-Gervais tranquillement, de les voir déjà à Saint-Gervais, de foncer après aux Contamines. Et donc après, moi, elle m'avait ramené à Chamonix pour que je puisse reprendre ma voiture et continuer mon assistance sans elle, puisque là, je n'avais plus besoin d'elle. Cette année, je n'ai pas voulu l'embêter, alors que sur le principe, elle y était encore, puisque Arthur nous a fait quand même une très très jolie course. Mais voilà, j'ai géré ça différemment. Donc du coup, je suis arrivée très très tôt aux Contamines. J'ai pu dîner, suivre du coup tout ça sur le grand écran, parce que c'est quand même vachement sympa aux Contamines. Ils installent un très grand écran sur la place du village. Il y a plein, alors les restos font des repas. Voilà, c'est vraiment super sympa, faut dire. La boulangerie est restée ouverte super tard et tout. Donc, je me suis installée à un sacré long moment aux Contamines. Ça m'a permis, avec justement, de faire quelques vidéos du ravito vide avant l'arrivée de tout le monde et tout, ce qui était très sympa. Puisque là, j'ai redégainé ma carte presse pour pouvoir évidemment avoir accès au ravitaillement vide, vous vous en doutez bien. Mais j'étais là pour le jogging international également. Alex est arrivé, donc je me suis installée. On nous a laissé rentrer 20 minutes avant. Le problème, c'est que les Contamines, c'est un ravito qui est quand même assez chaotique. Je m'explique. On est quand même au début de la course. Donc vous irez revoir le classement à ce moment-là d'Alexandre, mais clairement il y a du monde, c'est-à-dire que l'écart ne s'est pas encore creusé. Donc le ravitaillement en lui-même, la partie consacrée à l'assistance n'est pas très grande. On n'a pas de table, ce sont des bancs. Voilà, même si tout le monde y met de la bonne volonté et que les bénévoles font tout, c'est pas forcément simple. Et c'est ce qui explique l'espèce de trastrava qui ne veut absolument rien dire et qui a fait rire Jérôme Maire, qui tient montregps.com, qui nous a fait une analyse absolument incroyable de toutes les traces GPS. Les zigouigouis d'Alexandre, c'est tout simplement qu'il me cherchait parce que moi j'étais au fond de la deuxième tente. Parce qu'au moment où j'ai pu y rentrer, il y avait en fait plus de place non plus. J'ai essayé de me mettre le plus proche possible de la sortie, parce que c'était en fait à ce moment-là pas très clair. On ne savait pas si ce serait son entrée ou sa sortie. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à récupérer Alexandre. Mais vous voyez, j'ai dû, quand l'assistance de Manon Ward est rentrée, parce qu'ils se tenaient à peu près dans les mêmes temps à ce moment-là, moi je me suis poussée pour pouvoir leur laisser de la place. Enfin, vous voyez, on essaye toujours de trouver une solution, mais c'était assez chaotique. Il a refusé. À la base, il devait enfiler un t-shirt. Il m'avait dit, tu regardes ce que font les autres. Tous les autres avaient changé. Je lui ai dit, ils ont tous changé. Il m'a dit, je m'en fous, je pars. Donc voilà, il a fait un ravitaillement assez express. Il est reparti pour Notre-Dame, où là l'attendait notre caméraman, puisque donc on avait fait le choix de ne pas de donner priorité finalement à cette partie-là. Si Antoine était venu avec moi aux Contamines pour filmer le ravitaillement des Contamines, il n'aurait jamais pu être en temps et en heure à Notre-Dame. Et franchement, les images sont trop sympas pour se priver de ce spot plutôt que d'un ravitaillement. Donc, moi, j'ai filé, j'ai récupéré et j'ai filé prendre le tunnel tout de suite, puisque je pense que là aussi, beaucoup, vous êtes au courant, on a eu à gérer une gestion de crise, parce que c'était clairement une gestion de crise. Le tunnel de Fréjus était fermé pour cause d'éboulement. Et du coup, toute la circulation s'est reportée sur celui du Mont-Blanc, ce qui a engendré des embouteillages de dingo toute la semaine. Et ben voilà, moi je ne suis pas prioritaire, je ne peux pas passer avec mon gyrophare en mode laissez-moi passer, laissez-moi passer. Donc je me suis mise dans la queue comme tout le monde. Et bon, très sincèrement, on s'en est pas trop trop mal sorti, je trouve. Mais voilà, enfin, j'ai attendu, je pense, quand même 1 heure hein, dans mes souvenirs avant d'arriver à Courmayeur et de me garer sur le grand parking où il y a déjà pas mal de gens qui sont installés, beaucoup de vannes parce que beaucoup de gens y dorment pour ceux qui attendent les coureurs qui seront beaucoup plus lents. Je me suis garée, je suis allée parce que j'avais très très envie de faire pipi, je suis allée au bar qui est ouvert toute la nuit juste en face du parking. Là, j'y ai retrouvé l'équipe, la team de Manon, justement, qui attendait Manon. Donc finalement, on a bu. Moi, j'ai bu un thé, j'étais raisonnable. Et puis, j'ai tenté d'aller m'allonger un peu dans la golf pour faire semblant de dormir, qu'évidemment, je n'ai pas dormi, mais enfin, ça, on s'en doute. Et comme j'avais le temps d'arriver des premiers, finalement, voilà, j'en ai eu marre. J'ai dit, je vais arrêter de faire semblant et je suis allée au ravitaillement pour faire des images là aussi pour vous, mais aussi pour Jogging International, puisque c'était un peu ça le but également, de faire vivre les ravitaillements des premiers et tout. Et puis, bah voilà, j'ai attendu mon tour et finalement, Alexandre est arrivé. Là, l'avantage de Courmayeur, c'est que c'est un ravitaillement dans une salle polyvalente, enfin, oui, enfin, un truc énorme. Donc, on a tous des grandes tables, ce qui est quand même super confortable, ce qui explique pourquoi souvent les élites, justement, en profitent, s'assoient, mangent. Alexandre avait pris comme décision de ne jamais s'asseoir. C'était un, moi, je sais pas, c'était un test. Donc, il est toujours resté debout. Donc, voilà, on a fait l'assistance. Il est reparti de nouveau assez vite parce que c'était un peu l'objectif aussi, c'était d'essayer de gagner du temps sur les ravitaillements. Il est reparti et là, moi, en repartant, alors d'abord, je me suis arrêtée de nouveau au café, donc je ne sais plus, il était 3h30 du matin, ouais, un truc comme ça. Et je me suis arrêtée au café qui est dans la salle polyvalente, qui est le spot qu'on connaît tous parce que c'est le meilleur cappuccino d'Italie quasiment. Donc c'est pour ça que j'en parle souvent. Et je ne repars pas de Courmayeur sans mon cappuccino. En fait, j'ai pris mon petit déjeuner. Et en ressortant, je suis tombée sur Patrick Bartlank, le père de Manon, et sa maman, qui m'ont dit, tu repars, oui, tu vas pas, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, je tente le tunnel. Là, ils m'ont tout de suite dit, hors de question, on en vient. Le retour sur Chamonix est totalement chaotique. Il y a au moins 2 km de queue. Les gens sortent de leur voiture. Hors de question, tu fonces par l'Italie, Grand Col Saint-Bernard, tu ne te poses pas la question. Alors qu'à ce moment-là, j'hésitais encore. Donc me voilà partie vers l'Italie, à Aoste, tunnel. Tu fais que des tunnels, tu as l'impression de passer ton temps. Je déteste les tunnels. Je suis claustrophobe, je déteste ça. Donc voilà, route qui est quand même franchement pas hyper confortable, surtout que je la connais pas, enfin je l'ai faite une fois il y a très longtemps quand j'avais fait l'assistance de Damien, qui était ma première assistance de l'UTMB, mais que j'avais faite de jour. Là je l'ai faite de nuit, franchement, je ne vais pas vous mentir, j'étais très 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 heureuse d'arriver à Champélac, parce que j'avais vraiment besoin là de sortir, enfin la route est quand même un peu compliquée. Donc, je suis arrivée à Champélac, le ravitaillement, comme l'année dernière, n'était pas ouvert, donc ça donne une ambiance assez rigolote. J'ai quasiment réveillé les bénévoles, voilà, quand je suis arrivée. Enfin, j'exagère, mais il y en avait un de réveillé. Donc, il se trouve qu'à Champélac, j'y suis tous les ans, bien avant de faire les assistances. Je venais régulièrement et donc je retrouve régulièrement des visages connus. Donc, ils me reconnaissent sans la casquette, c'est ce que je veux dire. Ils me connaissaient comme journaliste. Donc là, Champé, par la force des choses, j'y ai passé un bon bout de temps à l'attendre, puisque voilà, pour des questions d'organisation, il fallait absolument que je sois arrivée avant que la route ferme. Et ça engendre de l'attente. C'est là où j'attends le plus en réalité, très souvent. Enfin, non, il y a Courmayeur et celui-là. Mais Courmayeur, c'est un peu différent parce que comme il y a de l'ambiance, il y a des cafés ouverts et des trucs, vous ne le vivez pas du tout de la même façon. Champé, le ravitaillement est vraiment un peu à l'extérieur du village. Et puis, 6h du matin, vous êtes dans un village suisse, il n'y a rien d'ouvert de toute façon. Donc, vous devez vraiment attendre. Mais ça m'a permis de pas mal discuter avec les bénévoles, d'en faire, voilà, de refaire connaissance avec les nouveaux. C'était vraiment super sympa. Et puis bah, très vite, ils ont allumé la télé, donc ça m'a permis de suivre un peu la course aussi. Cette année, pas de difficulté puisqu'il est arrivé à l'heure, peut-être même un petit ch'touille en retard d'ailleurs sur les prévisions. Donc ça m'a permis de pouvoir m'installer tranquillement. Là, de nouveau, on a des grandes tables, donc c'est très confortable pour nous. Il faut avoir conscience que moi, je vois des photos de champer le soir, voire la nuit. Ben voilà, ça n'a rien à voir, c'est très chaotique, il y a du monde partout. Moi, il faut bien avoir conscience que on est trois ou quatre, quoi, tables installées, donc c'est vraiment très très calme. Et puis là, j'ai récupéré, c'est là que j'ai récupéré Chouchou, puisque on va pas se cacher, vous le savez tous. Donc elle avait fait, au début, elle était restée pour tout ce qui était encouragement sur le parcours et tout. Elle était avec le caméraman. L'idée était de faire voilà l'encouragement mental. Et dans notre plan, elle me retrouvait à Champé pour pouvoir, bah, là, du coup, m'assister, entre guillemets, parce que bah, j'ai par la force des choses, j'étais en nuit blanche. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir prendre mon relais pour conduire si je ne me le sentais pas. Donc, ça, c'est plutôt sympa et ça me permet de ne pas être toute seule pour terminer la route. Donc ça c'est chouette. On s'était rendu compte l'année dernière que c'était quand même très sympa parce qu'elle m'avait retrouvée au même endroit, donc on était reparti là-dessus. Bah, aucun souci pour rejoindre Trian. Blague à part, je me suis garée à la même place où je me gare, et je vous jure que c'est vrai sur la tête de mes quatre gosses, à l'entrée du village, je me gare à la même place depuis que je fais des assistances. Donc ça fait plusieurs années. Je ne sais pas pourquoi, je vais finir par me demander si c'est... Elle est officielle, en plus, elle est légale, hein. Je ne sais pas un truc, genre je rentre dans le jardin de quelqu'un ou je sais pas quoi. Pas du tout, c'est une place tout à fait officielle et tous les ans, elle est vide quand j'arrive. Donc ça nous a beaucoup fait rire, parce que c'était le cas déjà l'année dernière. Donc là, je me suis arrêtée, j'ai fait cuire du riz, j'ai refait cuire du riz pour qu'il en ait du frais, qu'il n'a pas voulu embarquer, mais bon, c'est pas grave. Donc on a rejoint Trian, le ravitaillement, qui était un peu mieux organisé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un sentiment que ça m'a donné. Ils ont réparti les tables, je pense, différemment. Il faudrait que je regarde les photos, mais ça donnait le sentiment d'une meilleure organisation, beaucoup plus claire. Et donc, bah là, pas de souci. Les bénévoles, en plus, sont bah, évidemment absolument adorables. Et, bah, le bénévole est toujours adorable. C'est idiot ce que je dis. Mais. C'est-à-dire que comme bah, il n'y a personne encore finalement, donc ils sont là, mais ils n'ont pas de coureurs à gérer, puisque finalement, vous le savez très bien, quoi, les coureurs élites, en tous les cas, ont tous une assistance. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas le cas sur toutes les courses. Mais là, sur l'UTMB, très clairement, je n'ai vu aucun coureur qui est arrivé avant Alexandre qui n'avait pas son assistance. Après, je ne peux pas vous en parler puisque j'étais repartie, mais je vous garantis que sur l'UTMB, ils y avaient tous quelqu'un. Donc, bah, du coup, les bénévoles attendent le client, pour dire ça. Ce qui fait qu'ils sont absolument adorables et nous aident bien à nous installer. Guident aussi les coureurs quand ils arrivent et tout. Donc, ça, c'est top. Alex nous a fait un ravitaillement. On a bien compris. Voilà, il était dans. Clairement, il était en la souffrance, là. Donc, pas, voilà, ça nous a bien inquiétés et, enfin, moi, ça m'a inquiété en tous les cas. J'ai bien senti qu'il était dans le dur et c'est ce qui explique qu'à Valorcine, j'ai pas voulu prendre de risque de galérer et voire de le rater parce qu'il serait arrivé trop vite et qu'il m'aurait, voilà, c'est aussi pour ça. Il serait arrivé beaucoup plus frais et beaucoup plus lucide à Trian. J'aurais pris mon temps à Valorcine, enfin, je ne me serais pas stressée du tout comme je me suis très stressée cette fois-ci. Arrivée à Valorcine, là du coup on a récupéré notre caméraman, qui du coup a rejoint la voiture, et bah, on a grosse déception, puisque Valorcine c'est le ravitaillement où ils font des frites, voilà. Bah, en fait il y avait une queue de dingo, assez étonnante, parce que je pense qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont venus. du coup, s'installer à Valorcine parce qu'on leur a dit que les routes étaient fermées. Donc, je pense qu'il y a des crocs qui sont arrivés beaucoup trop tôt et tout. Enfin, je ne sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais il y avait un monde de dingos à Valorcine. Ou alors, c'est des gens qui venaient pour encourager Courtenay ou des choses comme ça. Mais autant d'habitude, enfin, l'année dernière, voilà, on a pu, il y avait un peu de monde, mais rien par rapport à cette année. Donc, un peu de frustration de ne pas pouvoir manger nos barquettes de frites, mais bon, c'est pas grave, on s'organisera mieux l'année prochaine. Et puis, voilà, il est arrivé clairement fatigué. Bon, voilà, on savait qu'il était dans le dur, donc on a pris la même décision qu'on avait prise l'année dernière, c'est-à-dire de s'arrêter sur le parcours pour l'encourager. Là encore, pour des questions de fermeture, ça je comprends tout à fait. Hein. Maintenant, ils empêchent on se gare sur le trottoir, enfin, qui n'est pas un trottoir, sur le bord de la route aux montées. Donc, du coup, je les ai déposés, Choué et Antoine. Moi, j'ai fait demi-tour. Je suis retournée au parking où on avait aperçu une place qui était toujours là. Et comme ça, du coup, on l'a encouragé à deux endroits différents. Et puis voilà, il est passé. On a filé à Chamonix. C'était cool parce qu'on avait le temps de prendre une douche. Plusieurs personnes m'ont posé la question, comment tu fais pour te garer à Chamonix en arrivant? Ah bah c'est très simple, j'ai forcément pris une place de parking parce que sinon c'est pas gérable. Donc, voilà, moi j'avais négocié. C'est quelque chose que je prévois systématiquement puisque moi j'y passe la semaine en plus. Je ne peux pas me permettre d'avoir. Je sais qu'il y a des places gratuites dans certains spots de Chamonix et tout, mais prendre le risque de tourner 1 heure pour me garer en rentrant le samedi, c'est juste pas possible. Voilà, je budgète une place de parking dans. Voilà, ça fait partie de mes budgets de Chamonix. Je sais qu'il y aura ça en plus. Et puis voilà, et puis douche. J'ai donc changé de robe parce que. J'ai hésité un moment, je me suis dit, est-ce que je remets pas ma robe verte? Mais non, franchement, j'avais passé 24 heures avant, il y avait des odeurs de soupe salénaque, de machin et de transpiration. J'étais incapable, après ma douche, d'enfiler cette robe qui sentait vraiment pas bon. Donc voilà, je me suis quand même habillée en propre et j'ai filé sur la ligne d'arrivée où on a la chance, donc à partir du moment où vous êtes crew ou famille. De pouvoir avoir accès sur le côté et donc de pouvoir et filmer et d'être présent. Et puis voilà. Il est arrivé. Et puis moi, je suis repartie à ma vie parce que bah, j'avais un dîner, j'avais du boulot et j'ai laissé. Un petit débrief a posteriori. Des erreurs ou des choses qui ont mieux été. On a donc, je pense qu'on l'a vu sur les images, un peu moins galéré avec la frontale, parce que j'ai compris comment elle fonctionnait. Bon voilà, il a un système où en fait, il la met au contamine, puisqu'en fait, dans le règlement, donc, ils ont deux frontales obligatoires. Ce qui fait que tout le monde a une frontale. La frontale principale et une petite frontale qui servira de dépannage au cas où. Ce que beaucoup de coureurs font et ce qu'a fait Alexandre, c'est qu'il est parti, lui, avec une frontale beaucoup plus légère. C'est-à-dire, voilà, il avait une petite frontale qui était largement suffisante pour les quelques minutes dont il en a besoin. Pour rejoindre les Contamines entre Saint-Gervais, parce qu'en fait la nuit tombe entre Saint-Gervais et Contamines à leur niveau. Et donc à Contamines, le plan était de lui enlever la frontale, la petite, et de la remplacer par la Nao, qui du coup était prête à l'avance, puisque là c'était pas je la prends dans son sac et tout, je l'avais avec moi. Et il y avait juste à lui passer sa frontale et à mettre dans son sac, donc. Elle est déportée, donc la batterie et les batteries qu'il embarque, puisqu'il en embarque quand même pas mal, ce qui fait un certain poids, hein, faut quand même en avoir conscience. Les Nao sont top, mais c'est vrai que le poids des batteries, c'est quand même pas rien. Il m'avait, là c'était top parce qu'on avait vraiment un détail, il m'avait vraiment fait un planning et un détail pour chaque ravitaillement de ce qu'il voulait, de ce qu'il attendait. Donc ça a plutôt bien fonctionné, je trouve en tous les cas. On s'en est plutôt bien sorti pour tout ce qui était changement de flasque. Je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez tous vu sur les vidéos. Je prépare les flasques en amont. Je récupère les vides et je les prépare pas dans le ravitaillement. Elles sont préparées au cul de la voiture, on dit. Donc, je ne trimballe pas avec moi les poudres de perlimpinpin qu'il met dedans. En sachant donc que c'est toujours une flasque d'eau et une flasque de boisson isotonique. Donc ça, tout est préparé avant, j'ai juste à faire le changement. C'était super intéressant d'ailleurs d'observer les tactiques des autres coureurs. Les deux Américains, parce que c'était valable, c'était très drôle d'ailleurs à observer, donc Jim et Zach, systématiquement leur assistance récupérait le sac qu'ils avaient sur leur dos. Je crois que Germain l'a fait aussi, il faudrait que je lui demande, mais je me demande si ça n'a pas été le cas de l'assistance de Germain aussi. Mais arrivé au ravitaillement, l'assistance lui enlève le sac. Il s'asseyait, il mangeait sans le sac sur le dos, pendant que l'assistance vidait tout ce qu'il y avait à vider, remettait tout ce qu'il y avait à remettre et lui remettait sur le dos pour qu'il parte. C'est pas comme ça qu'on s'organise avec Alexandre, mais c'était très marrant de le voir parce que vraiment, les Américains, ça a l'air d'être leur truc. Autre différence aussi, le mari de Courtney. Lui glaçait ses t-shirts, donc arrivait avec des gros pots, une espèce de grande jarre en plastique dans laquelle il y avait des glaçons, un t-shirt ou un bœuf et tout, et donc lui mettait de la glace. C'est très très américain. Il faut savoir que sur les courses comme la Western ou la Hard Rock, il y a des monceaux de glace qui sont mis à disposition de tous les coureurs, hein, pas que des coureurs élites, bien entendu. Mais tout est glacé, c'est-à-dire que vous ne repartez jamais avec une boisson qui n'est pas fraîche. Et vous avez du glaçon à volonté si vous voulez en mettre dans vos flasques, si vous voulez en mettre dans votre bœuf pour vous glacer et tout. C'est réellement un pays du glaçon. Voilà. C'est quelque chose qui vraiment fait partie de de leurs habitudes. Donc le mari de Courtenay a refait la même chose. Petite parenthèse, beaucoup parlent de Courtenay qui se lave les dents, ce qui est une réalité. Oui, mais c'est pas un luxe. Il faut savoir quand même qu'elle vomit beaucoup. Donc, c'est aussi en partie, je pense, dans l'idée de ne pas garder le goût de vomi dans la bouche et surtout d'enlever le plus rapidement possible l'acidité, des vomissements au niveau de ses dents, quoi. Donc, je suis désolée d'être un peu, je ne sais pas comment dire, mais trivial, mais c'est surtout ça le problème en fait. C'est pour ça qu'il y a cette habitude de se laver les dents. Et en sachant qu'en plus, si vous faites des ultras de plus de 20 heures, vous verrez à boire des boissons. Moi, c'est quelque chose. J'ai toujours eu une brosse à dents également, donc c'est ça qui m'a amusée, c'est que tout le monde avait l'air de trouver ça incroyable. Moi, j'ai toujours eu une brosse à dents parce que le coca, toutes ces boissons-là, les boissons isotoniques, ça finit par te faire un espèce de sentiment de ces pâteux dans la bouche et tout, c'est très désagréable quand ça dure très longtemps. Et se brosser les dents avec un goût de menthe et tout, ça permet de vraiment repartir. C'est très très agréable et tu gagnes beaucoup en fraîcheur et tout, c'est franchement, voilà. C'est pas un luxe du tout. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de nécessaire. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Donc, franchement, là, pas eu de gros soucis de gestion et tout. En truc à améliorer, on a toujours, enfin pour moi, le gros souci, c'est toujours qu'à un moment, Alex n'arrive plus à manger. Donc, qui dit plus d'alimentation, dit forcément. Plus de carburant et c'est tout de suite un peu plus compliqué la gestion d'un effort pareil. Donc ça c'est de toute façon la problématique d'énormément d'ultra-trailers, on le sait pertinemment. C'est loin d'être simple. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de truc magique, hein, formule magique pour ça. Mais je sais que c'est un des points qui pourrait faire vraiment la différence pour la gestion d'une course aussi longue. On a essayé, on avait prévu des petites pommes de terre, parce que beaucoup utilisent des petites pommes de terre, pour que pareil, s'il avait besoin, il en embarque, il en mange sur place, il y avait toujours un petit sachet pour s'il voulait en embarquer. Il n'y a pas touché. Il y a vraiment touché que le riz, en sachant qu'il ne m'a jamais rendu un sachet de riz vide, hein, donc il n'en a jamais mangé entre guillemets suffisamment. Je pense que l'année dernière, en mangeant à tous les ravitaillements, il en a mangé beaucoup plus sur la course. Du coup, voilà, on pourrait faire une analyse. Si je voulais être un peu pragmatique, je pourrais dire que finalement, il ne s'est pas arrêté, enfin, il ne s'est jamais assis, il ne s'est pas changé. Ça, c'est les deux grandes différences de l'année dernière, mais il n'a pas gagné en temps, finalement, pour dire les choses. Donc, il n'y a pas eu de gain au chrono en adoptant cette tactique. Donc, à voir. C'est toujours la question qu'on se pose. Quel est l'intérêt de s'asseoir? Quel est l'intérêt de prendre du temps au ravitaillement? C'est toujours une vraie question. Il faut savoir que vraiment les coureurs élites, ceux qui sont sur le podium, en tous les cas, ont tous pris le temps de s'arrêter et de s'asseoir. Quasiment à tous les ravitaillements. Les contamines, je les ai pas vues. C'était dans la tente à côté, donc je n'ai pas vu aux contamines. Là, je pense que par contre, tout le monde est passé à fond les ballons. Mais à partir de Courmayeur, où je les ai donc vus, ils se sont tous systématiquement assis, ont tous posé leur sac et ont tous mangé de façon quand même réelle. Vraiment. Donc, c'est assez intéressant d'observer ça. Finalement, donc est-ce qu'il ne faut pas en tirer quelques conclusions? Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que c'est une ou deux minutes perdues au ravitaillement ne sont pas gagnées après pendant la course? C'est toujours la question. À moi, à titre personnel, j'y ai répondu parce que certains le savent. Moi, j'ai fait pas mal d'ultra quand même avant de faire de l'assistance. Et je m'étais rendu compte, il s'est trouvé que, par exemple, c'était un non-stop, un 100 km non-stop dans le désert à Abu Dhabi. Je vais vous prendre cet exemple parce qu'il a été très parlant pour moi. C'était 100 km, il faut savoir que le désert du Liwa à Abu Dhabi, c'est 90% de dunes, sachant qu'un marathon des sables, c'est 25% de dunes à tout péter, et encore, je crois qu'on n'est même pas à ça. Donc ça vous donne une idée quand même du bazar dans lequel on devait s'orienter au GPS. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de balisage. Donc c'est vraiment des courses très particulières. La première année, comme je n'arrive pas à dormir sur les courses, je me suis entêtée, entre guillemets, à ne pas vraiment m'arrêter. C'est-à-dire que je m'arrêtais, mais je repartais très vite et je n'ai pas cherché à dormir. Résultat, en pleine nuit, 3 h du matin, j'ai jardiné à mort parce que j'étais paumée et que j'arrivais plus à retrouver ma trace et tout. Donc, je me suis rajouté des kilomètres qui n'étaient franchement pas indispensables. Bon, alors ça va faire très machin, très prétentieux, mais c'est quand même une réalité. J'ai quand même gagné la course. Enfin, on a gagné la course parce qu'on était deux. Donc, c'était une double victoire. Mais après, on était. Enfin, j'ai gagné la course, pas au scratch, hein, les enfants, on va se calmer, féminine, mais on n'était pas beaucoup de femmes, évidemment. Donc, mais enfin, bref, passons. L'année suivante, j'ai décidé qu'il était hors de question que je revive cette expérience qui m'avait quand même énormément stressée, qui m'avait, du coup, le stress m'avait fait perdre une énergie de dingue, que j'avais payé cash derrière. Donc, j'ai décidé de m'arrêter à la base de vie, enfin, au campement dans le désert, à 3 h du matin, et je me suis arrêtée 2 h. Je n'ai pas dormi parce que je n'ai toujours pas réussi, mais j'étais allongée, j'étais au calme, j'ai pris le temps de manger et voilà, j'ai pris mon temps et je ne suis repartie qu'à 5 h du matin, l'heure à laquelle on retrouve cette lucidité dont on a réellement besoin. Résultat, je ne me suis pas perdue. Résultat, en fait, je termine, ce qui est assez dingue et je vous jure que c'est vrai, quasiment au même temps que l'année d'avant, sans cette pause, parce qu'en réalité, j'ai pas jardiné, j'ai été efficace et j'ai tracé. Bah, où je refinis encore première, mais là aussi avec une autre coureuse, parce que on a fini à deux. Mais voilà, ça vous donne une idée. C'est pas aussi simple que ça, ces décisions de. Je pense qu'il faut peut-être réfléchir à ça. Ne pas partir avec l'idée d'un ravitaillement qui finira quand il finira. Je pense qu'il faut qu'il soit structuré, quand même, limité dans le temps. Mais trop se limiter dans le temps n'est pas forcément gage de réussite à la fin. Donc, il faut vraiment trouver le bon équilibre. Et c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui va finir en 40 heures, il faut qu'il y ait un temps déterminé de ravitaillement. Ça peut être 10 minutes et 15 minutes hein, dans ce cas-là. Mais par contre, c'est 15 minutes, pas une minute de plus. Et c'est 15 minutes qui sont organisées, où la personne se pose, où, voilà, et on le fait repartir. C'est-à-dire qu'à partir de 13 minutes, on commence à dire, allez hop, il faut que tu y retournes. Et on l'aide et on le relève et on le met dehors. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place avec le coureur. On me demande également beaucoup, on m'a beaucoup posé la question comment alors on s'organise. Je pense que le secret d'une assistance réussie, c'est de réellement bien discuter avec le coureur en amont et de voir ce qu'il attend de son assistance. Pour certains, ce sera vraiment uniquement l'assistance technique. Pour d'autres, clairement, ils sentent qu'ils auront besoin d'une assistance morale. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, et je le dis et je le redis quand on est engagé sentimentalement parlant avec la personne. Pour moi, je l'ai vécu puisque mon mari m'a fait une assistance une fois et ça s'est entre guillemets mal terminé puisque j'ai abandonné parce que il y avait justement ce truc-là quoi et cette relation et de me voir vraiment dans une souffrance extrême. Ça l'a fait paniquer, ce que je peux comprendre, et sa panique m'est revenue dessus finalement, et a fait que ben, moi aussi j'ai lâché prise parce que voilà. Donc je sais que c'est pas aussi simple que ça. Je comprends tout à fait la volonté d'avoir quelqu'un de proche, mais je pense que une solution qui peut être pas mal à envisager, même si elle n'est pas simple à mettre en place, je le conçois tout à fait. C'est ce qu'on a finalement un peu mis en place, nous. C'est-à-dire que moi, je suis l'assistance technique. Je suis là, je remplis les flasques. S'il m'engueule, il m'engueule. S'il veut pas de mon gel, il veut pas de mon gel. Ou de mon sachet de riz qui m'a, en gros, renvoyé à la gueule. C'est à Valorcine ou à Trian? Je crois que c'est à Valorcine qui me l'a acheté. Ça, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas. Voilà, ça n'a pas d'implication. Moi, je suis là pour du matériel et tout ça. Et que la famille, les gens proches, soient là pour tout ce qui est encouragement mental. Donc clairement, il a été encouragé sur tout le parcours par la personne qu'il aime. Elle était à la sortie du ravitaillement ou à l'entrée et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté, le bisou d'encouragement n'est pas lié à est-ce que tu as foutu les flasques comme il faut? C'est peut-être une solution aussi à faire. Donc de confier l'assistance à un copain ou une amie qui a le courage de se lancer là-dedans. Et la famille n'est là que pour le confort moral. Bon, je sais que c'est pas simple hein, ce que je suis en train de vous raconter. Je sais qu'évidemment à mettre en place c'est complètement dingue. Je sais que bah, certains coureurs, c'est par exemple Mathieu et Alix, ça fonctionne très bien. Bon, voilà. Jessica a fait le ravitaillement de gym, mais n'a pas fait le dernier. Alors, bon, je sais qu'il y avait un côté sûrement un peu communication, mais bon, c'est François qui s'y est collé. Xavier Thévenard, ça n'a, pour donner un autre exemple, ça n'a jamais été sa petite amie ni ses parents qui ont fait ses ravitaillements, mais ils ont toujours été très souvent sur le parcours. La seule fois où ils ont fait le ravitaillement, on sait ce que ça a donné, mais ça, bon, c'est fin de la parenthèse. François, c'est pareil. Moi, j'ai jamais vu François Daen, je n'ai jamais vu son épouse faire son ravitaillement, mais elle a toujours été là et elle est là sur la ligne d'arrivée, bien entendu. Donc voilà, c'est des choses qui sont à réfléchir, à mettre en place en amont, mais réellement, si vous avez envie d'une assistance et tout, pensez-y avant, réfléchissez, pesez bien le pour et le contre, et dites-vous que voilà. Il peut peut-être être intéressant de déléguer, mais chacun voit ce qu'il veut faire, mais réfléchissez-y, je pense. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions que j'avais reçues. Si il en manque, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai du coup par écrit et je compléterai cet enregistrement. N'hésitez pas, voilà, à commenter. Beaucoup m'ont posé la question, je vais y répondre ici, je vais aussi y répondre sur Instagram. Non, il n'est pas prévu que je vienne à la Diagonale. Déjà pour la simple raison que eh ben c'est loin, qu'il y a un billet d'avion à payer. Parce que oui, ah oui, tiens, si, bah, je vais y répondre. Non, Alexandre ne me paye pas. Je ne suis pas rémunérée par Alexandre, je ne suis pas plus rémunérée par Salomon. Voilà, je fais ça gracieusement. Et si je fais ça gracieusement, c'est parce qu'en réalité, on a choisi des courses où je travaille également. Donc, c'est-à-dire que je colle ça avec mon activité professionnelle. L'UTMB, je serais venue avec ou sans Alexandre, puisque j'y travaille tous les ans. C'est mon métier de journaliste. L'UT4M également, il était prévu que depuis longue date que j'y sois en tant que journaliste. Donc, finalement, on y a rajouté l'assistance d'Alexandre. Mais vous voyez, enfin, les choix des courses où je l'assiste sont aussi liés à mon activité. Pour ne pas justement créer ce lien entre nous deux ben, il me paye pour faire une assistance ou quelque chose comme ça. Moi, ça me permet aussi d'avoir une liberté par rapport à lui, pour lui dire, bon, écoute, c'est bon, hein, je suis autonome. Je trouve que c'est pas mal aussi. Donc voilà, la Diag, bon après, si les organisateurs m'invitent. Comme ils ont invité plein de podcasteurs et tout l'année dernière, je serais ravie d'y aller. Mais voilà, très clairement, il est hors de question que je budgète enfin, plusieurs jours à l'île de la Réunion à titre perso pour aller juste faire une assistance. C'est juste absolument pas envisageable. Donc voilà, donc vous savez tout. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le retrouve. Il n'est donc pas exclu du tout que ce soit notre dernière assistance de 2023, puisque de toute façon, les autres courses qu'il fait, je ne vais pas au Mont du Jura, puisque c'est le week-end du mariage de mon Alexandre à moi, donc vous doutez bien que j'ai un peu autre chose à faire. Il y aura la Diag, donc je vous ai répondu, et la Lyon-Saint-Élion. De toute façon, je n'aurais jamais fait l'aller avec lui comme j'ai fait l'année dernière, même si je n'ai pas fait l'assistance, mais pour vous faire partager un peu l'aller, puisque. Je serai sur la Saint-Élion, ça c'est sûr, mais pour dédicacer mon nouveau livre. Donc je serai présente sur le village et donc le samedi, il est hors de question que j'aille me balader dans la campagne. Je dédicacerai mon livre. Alors est-ce que s'il vient, je fais peut-être son assistance du retour, puisque c'est le seul endroit où on fait l'assistance. Bon, je vous cache pas que s'il y est, si j'y suis, oui, évidemment. Que je ressauterai voilà, dans la voiture pour aller faire le retour, pour le fun, et histoire d'en faire une dernière. Mais il n'est vraiment pas sûr qu'il y soit pour terminer son année. Et donc voilà, en réalité, ici, il retourne chez les Casque-à-Pointe, mais enfin chez les Vikings. Oui, parce que Casque-à-Pointe, non, ça va être mal interprété ce que je viens de dire. Il retourne chez les Vikings, mais l'assistance y est interdite. Donc j'ai vraiment aucune raison d'y aller. Et voilà, et son année donc sera finie. Son année déjà bien chargée sera finie. Et donc, bah écoutez, 2024, le programme n'est pas fait encore, puisque bah, déjà il va dépendre aussi de savoir s'il retourne à l'UTMB. Il se posait la question de plus en plus de peut-être aller sur la TDS pour découvrir un nouveau parcours. Voilà, il y a plein de choses pour l'instant qui le titillent, on va dire. Et donc, le programme de 2024 n'est absolument pas fait. Il sera déterminé en fin d'année. Et en fonction de ça, bah, on verra où je vais ou pas. Donc voilà. Écoutez, merci encore, merci. Je tenais vraiment surtout à remercier de nouveau toutes les personnes, que ce soit chez les bénévoles, donc les gens de l'organisation, que ce soit les spectateurs, toutes les personnes qui autour ont facilité cette assistance. Et elles sont nombreuses et elles se reconnaîtront. Je pense particulièrement à une personne. Vraiment, merci, merci, merci. C'est incroyable de voir toute cette bienveillance que j'ai autour de moi, de l'attachement que vous avez maintenant pour ce gamin à casquette verte, qui n'est plus du tout un gamin, évidemment. Mais vraiment, c'est incroyable à vivre aussi pour moi parce que c'est aussi 24 heures dans un cocon. De soutien, d'amour et tout, et je le ressens énormément. Ça, c'est vraiment dingue. Lui, le vit. C'est pas toujours simple, je le sais, il m'en a parlé. C'est pas toujours simple parce que Beaucoup de gens sont du coup en attente, ont envie, et je le comprends, de discuter avec lui, de venir courir avec lui, et ainsi de suite. Mais voilà, ça reste 170 km et c'est vraiment pas simple. Et il est vraiment dans le mal, il faut quand même en avoir conscience. Il peut y avoir des moments où il est vraiment dans le dur, où il n'a pas. C'est compliqué de perdre de l'énergie pour discuter, pour ne serait-ce que sourire ou taper dans les mains, même s'il essaye de faire au maximum. C'est pas simple. Donc voilà, moi c'est tout de suite un rôle beaucoup plus facile. En tous les cas, voilà, merci, merci à tous ceux qui ont gardé mes sacs pendant que je filais aux toilettes. Merci à tous ces gens-là qui m'ont donné des trucs et des astuces avec qui j'ai pu discuter pendant le parcours. Vraiment merci. Et puis bah, peut-être à l'année prochaine.